Comment performer dans une bureaucratie ? Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on va rencontrer Fabien qui se définit lui-même comme un manager dans une bureaucratie. Et tu vas voir que c'est loin d'être ennuyeux quand on prend les moyens de ses ambitions. J'ai beaucoup aimé cette discussion avec un manager humble, passionné, ambitieux et engagé. Fabien travaille dans le secteur de l'aide à domicile, il gère 50 personnes et sa structure compte 1000 salariés. Au programme de ce podcast, nous allons aborder plein de sujets passionnants. On va bien sûr évoquer la manière dont il a mis en place un management participatif et dynamique dans une bureaucratie. On va voir que Fabien a recruté presque 100 personnes en 2 ans. On va parler du travail en cellule, on va évoquer 3 formations, le manager essentiel, le management par objectif et les tableaux de bord dynamiques. On va évoquer le concept de nudge et Fabien va nous expliquer aussi comment Outils du Manager lui a permis d'obtenir un diplôme de direction de centre. Je te laisse donc écouter ma conversation avec Fabien et tu verras que notre accent ch'ti n'est jamais très loin. Bonjour Fabien.
Bonjour Cédric.
Comment vas-tu ?
Bon, ça va plutôt bien, écoute. Et toi ?
Ah bah, très très bien. Alors, nos auditeurs l'auront remarqué, il y a un petit accent du Nord.
parce que je peux pas le cacher.
Voilà, t'es à Liévin, c'est ça ?
Exactement.
Ouais. Et c'est ce que je disais en off avant qu'on commence. Je dis, ah, c'est un accent que je connais. Puis moi-même, en général, quand je discute avec quelqu'un du Nord, je me mets à prendre l'accent aussi. Donc voilà, les auditeurs jugeront. Hein.
Exactement.
On n'en a pas honte. On n'en a pas honte. Au contraire, on en est fiers. peut-être que pour commencer, tu peux te présenter et puis nous dire un petit peu ce que tu as envie de nous dire sur toi, mais en particulier, évidemment, sur l'aspect professionnel.
Ok, merci Cédric.
Je t'en prie.
Donc moi, je suis titulaire d'un diplôme animation et développement local, ce qu'on appelait à l'époque les DESS, en 2004. J'ai commencé à travailler dans l'économie sociale et solidaire.
D'accord.
Et plus particulièrement dans la finance solidaire, c'est Pas-de-Calais Actif.
D'accord.
Donc ça, ça m'a permis en tout cas d'accompagner plusieurs structures associatives dans tous les secteurs confondus, les accompagner. Donc moi, je missionnais les cabinets conseils et ensuite j'ai poursuivi les missions dans le financement.
D'accord.
Les apports en quasi-fonds propres pour justement, on va dire, solidifier des trésoreries parfois un peu exsangues, voilà, ou pouvoir investir aussi sur des projets de développement pour les structures de l'économie sociale et solidaire.
Ok.
Donc ça, c'est 2004-2009, et puis en 2009, j'avais vu beaucoup de choses, j'ai beaucoup appris auprès des présidents, des directeurs de structure, des consultants, en interne également. Et puis c'est un des usagers, on va dire, un des bénéficiaires du dispositif qui m'a dit, bah, écoutez, j'ai besoin d'un adjoint, est-ce que vous voulez venir avec moi ? Et j'ai commencé à travailler dans une structure d'aide à domicile.
D'accord.
C'est pas un secteur qui m'attirait spécialement, mais voilà, maintenant j'ai appris à le connaître et ça fait 10 ans que j'y travaille.
Et puis je pense que c'est un secteur qui est en fort développement.
C'est un secteur qui est en fort développement, qui est précarisé. C'est vrai que c'est sous-financé, on va dire. Les fédérations se battent pour qu'il y ait une reconnaissance. Et Madame Bourguignon, la ministre, la secrétaire d'État aux personnes âgées, le fait chaque jour.
D'accord.
Elle est de chez nous. Je la mentionne parce qu'elle est de chez nous, justement.
D'accord.
Donc j'ai quitté l'association locale et j'ai intégré ce qu'on appelle, alors, je sais pas si sur la côte on est moins présent, mais le régime minier.
D'accord.
Tu sais.
Ok. Et donc dans ce cadre-là, tu fais du management.
Exactement. Je fais du management. Alors pas forcément d'équipe. Moi, je manage 2 chefs de service.
Ouais.
Qui ont eux-mêmes des adjoints et qui gèrent des services assez conséquents.
D'accord.
Une 30aine de personnes pour l'un et près de 20 personnes pour l'autre.
Ah oui, donc en fait, tu chapeautes plus de 50 personnes, en fait.
Oui, mais en direct, 2. Mais effectivement, après, je m'occupe de la partie production.
D'accord, ok.
Et c'est la magie de l'aide à domicile, c'est qu'en dessous, il y a 1000 salariés.
Ah oui, d'accord, ok.
L'activité se décline, enfin, au niveau du territoire, on va de Béthune à Valenciennes.
D'accord.
L'ex bassin minier.
D'accord. D'accord. Intéressant. Et j'ai vu que tu avais fait 3 formations du catalogue, apparemment.
Oui, oui.
le manager essentiel, le disque et management par objectif.
Oui, ça a vraiment été une découverte. C'est vrai qu'on commence à, on commence à écouter les podcasts, puis on se dit, tiens, c'est intéressant, mais comment je me l'approprie, comment je rentre dans l'action. Et justement, c'est un des arguments que tu évoques dans les podcasts et qui donne envie de, voilà, de tester. Après, c'est vrai que j'ai pris la plus importante au début, mais ça a vraiment été une découverte pour moi. Et du coup, c'est un collègue qui m'a fait découvrir les podcasts. Et ça, c'est assez anodin, on va dire.
Oui. En fait, on fait pas de marketing. Hein. Enfin, en tout cas, on n'a pas de budget marketing. Évidemment, on parle un petit peu sur LinkedIn. On essaye de poster ce qui nous paraît intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent sur le podcast par bouche à oreille, en fait. Récemment, je me suis encore rendu compte que je discutais avec des personnes et puis tout d'un coup, une des personnes me dit « c'est bizarre, je connais ta voix ». Et en fait, c'était quelqu'un qui écoutait le podcast et dans la même conversation, une autre personne qui fait « ah ouais, outil du manager, c'est toi ». Et en fait, ils étaient plusieurs à l'écouter. Donc c'est toujours assez marrant. Et donc toi, en fait, c'est un de tes collègues en fait qui t'a conseillé d'écouter, c'est ça ?
Exactement, je me suis mis à écouter. Il a fait déjà des remontées sur ce qui lui plaisait, sur ce qui l'intéressait, sur quels outils pouvaient servir. Et puis c'est comme ça que j'ai plongé, quoi. Maintenant, tu es sur les podcasts, il est sur le téléphone et j'ai la bibliothèque. Et ça permet aussi d'en échanger entre nous, de voir ce qu'on en pense, d'identifier aussi nos besoins et de voir ce qui peut être complémentaire. On n'a pas forcément pris les mêmes formations.
D'accord.
D'ailleurs, on n'a même pas pris du tout les mêmes formations.
D'accord. Ok. Ah, c'est drôle. Et oui, effectivement. Et ça aussi, c'est intéressant. Ça, on n'en parle pas souvent. Moi, j'en parlais pas mal quand j'intervenais dans des entreprises. Puisque avant, moi, ma source, je dirais, c'était les entreprises. Maintenant, ce sont les individus. Mais avant, c'était plutôt des entreprises qui me disaient, on aimerait bien que vous veniez intervenir. Et j'insistais toujours sur le fait que dans une entreprise, c'est intéressant de former plusieurs managers et qu'ensuite, ces managers, en fait, ils soient en contact les uns avec les autres et que du coup, ils développent pas un petit club, mais que voilà, ils aient des discussions sur le management entre eux. Et ce qui rend leur discussion productive, c'est qu'ils utilisent le même système. Parce que du coup, on a un référentiel qui est commun et on comprend tout de suite de quoi on parle. C'est-à-dire que quand on parle de feedback, on sait que c'est le feedback à l'outil du manager avec les quatre étapes, etc., etc. Et ça peut être intéressant aussi parce que quelquefois, on se sent un peu seul, hein, en tant que manager. On est confronté à des choses.
Je t'avouerai que c'est par rapport à ce que tu viens de dire, c'est... Ça a fait l'objet entre Julien et moi d'une conversation. Après, voilà, on bosse. Régime Minier, c'est Filieris aujourd'hui, hein, le groupe de santé Filieris, la santé en action. Mais c'est, on est soumis au marché public, on est soumis voilà, à des règles. Aujourd'hui, ça ne se coïncide pas, mais en tout cas, nous, on fait déjà en interne remonter nos besoins. Et moi, j'ai déjà un screen de tes formations dans mon OAE, même si je sais qu'on a un catalogue. D'accord. Assez fermé, que le hors-catalogue, c'est très peu ouvert. Mais en tout cas, nous, on en parle entre nous. Et ça ne nous empêche pas d'en parler avec des collègues qui font aussi du management.
D'accord.
C'est pas... voilà, ça nous... Il y a les barrières bureaucratiques, mais on va dire... après, nous, entre nous, on parle, on a un réseau. Un réseau relationnel, c'est important.
Oui, je suis d'accord avec toi. On en parle d'ailleurs un petit peu dans la formation le manager essentiel. Alors, de quoi tu veux qu'on parle aujourd'hui ? Est-ce que tu veux qu'on parle d'une formation en particulier ou est-ce qu'il y a des thèmes qui t'intéressent en particulier ?
Le manager essentiel, je pense que moi, ça a été un tournant.
Ouais.
Quand même, c'est la pierre angulaire. Enfin, c'est les fondations de la maison.
Ouais.
Plus c'est cette formation. Après, le management par objectif, j'ai commencé en décembre et j'y suis encore en cours. Et je t'avouerai que l'interview de ce jour, elle me fait du bien parce qu'elle me permet de refaire un point sur le manager essentiel et sur management par objectif, de me remobiliser parce que l'activité, elle est assez dense. Donc, mais c'est vraiment la formation qui, pour moi, a changé les choses, quoi.
D'accord. Alors, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est de savoir un petit peu, bon, on a compris comment tu étais venu à outil du manager, c'est par relationnel, en fait, finalement. Ensuite, ce que tu nous dis, c'est que, bah, à force d'écouter les podcasts, tu as envie de passer à l'action, et c'est vrai que la bonne manière, c'est de prendre une formation, parce que quelque part, ça oblige. Mais ce qui m'intéresse, c'est un peu de savoir, qu'est-ce qui a, enfin, j'allais dire qu'est-ce qui allait pas, peut-être que tout allait bien, mais qu'est-ce que tu voulais améliorer, en fait, c'était quoi ta vie avant, moi, ce que j'aime bien, c'est voir, c'est la vie avant la formation, c'est-à-dire comment tu travaillais avant, ce qui allait bien, ce qui allait pas, etc. Qu'est-ce que la formation a changé chez toi, les bénéfices que tu en as eus immédiatement, puis les bénéfices qu'on a eus plus tard, parce que les formations, elles sont construites comme ça, il y a des choses qui changent immédiatement, puis après, il y a des choses dont on se rend compte souvent un peu plus tard après avoir fait la formation.
La vie avant outil du manager, on va dire, elle était un peu désordonnée, voire intuitif.
Ouais.
Donc effectivement, on pouvait répondre aux besoins, on travaillait, mais il n'y avait pas cette structuration qu'on peut connaître aujourd'hui, que je peux connaître aujourd'hui, même si des fois il y a du relâchement.
Bien sûr.
Et quand on fait un 1-1, comme j'ai fait hier avec Julien, on fait des points rapides, on se voit, il y a une fréquence, on sait que là on est en train de manager, on est en train de voir ce dont le collègue a besoin, pour pouvoir aussi faciliter son travail et lui donner aussi une lecture à mon niveau. Ça aussi, malheureusement, c'est une bureaucratie, ça, ces fameuses pyramides. Et des fois, il faut donner aussi des visions pour et donner du sens aux collègues. Tout ça avant, on le faisait de manière un peu désordonnée. Enfin, je le faisais de manière un peu désordonnée. C'était pas optimal. Je pense que l'outil le plus intéressant pour moi, ça reste le 1-1, parce qu'il a créé. Quand je vois le avant-après, je pense que j'ai créé un capital confiance fort, un relationnel fort avec les collègues et une meilleure connaissance de l'autre. Et ils savent, ils me connaissent mieux, et du coup, ils savent vers quelle décision je peux m'orienter si je ne suis pas là. Et malheureusement, ça m'arrive parce que je suis élu au comité économique et social. Donc, c'est quand même. J'ai aussi parfois des absences
Non, mais alors là,
de
tu soulignes
l'entreprise.
un point qui est super, super important. C'est que c'est un truc que je dis souvent, la qualité du manager se mesure en son absence.
Ah,
C'est-à-dire
bah
que,
écoute, là, pour le coup.
voilà, tu vois, en fait, tout l'objectif de ton système de management, c'est que ça marche quand t'es pas là. Hein? Alors bizarrement, il faut investir du temps pour que ça marche, mais en fait, en investissant un temps vraiment limité, hein, c'est le principe du 1-1, c'est quand même un temps limité, mais systématique, régulier, fréquent, etc. On va pas faire le détail ici. Ça fait que quand t'es pas là, bah, ça fonctionne sans que tu sois là. C'est-à-dire que les décisions peuvent se prendre sans que tu sois là. Et t'as dit un truc qui pour moi est vachement important, c'est qu'en fait, tes collaborateurs ont même pas besoin de te demander pour savoir quelle décision tu aurais prise. Et une fois que tu as réussi ça, bah, tu as réussi déjà la mise en autonomie de tes équipes. C'est pas forcément que tu as délégué, parce que déléguer, ça veut dire d'autres choses, mais déjà, tu les as rendus autonomes par rapport à toi. Et du coup, bah, de leur côté, ils ont un meilleur ressenti de leur liberté d'action. Et rien que ça donne du sens. Se dire, bah, je peux décider, ça donne du sens. Ça suffit pas, mais déjà, c'est quelque chose. Mais en plus, toi, tu es moins, je dirais, tu es moins interrompu dans ton quotidien. Et ça te permet d'être élu. J'ai pas très bien compris où,
Oui,
parce que je
le
suis pas
comité
très.
social et économique, c'est les instances de représentation du personnel,
Ah bah oui,
ce
bien
qu'on appelait
sûr. D'accord.
avant les délégués du personnel, les
D'accord.
membres de CHSCT ou de comité d'entreprise. Voilà, c'est un
D'accord.
nouveau nom depuis les ordonnances Macron, et
Ah bah écoute, je
du
suis
coup, voilà,
resté au vieux nom, moi.
il n'y a pas de souci. Et par rapport à ce que tu viens de dire, il y a deux. Moi, ça résonne chez moi avec deux expériences que j'ai du passé.
Ouais.
J'étais membre de la Jeune Chambre économique et du Centre des jeunes dirigeants. Et c'est vrai que c'est dans les structures où on se développe personnellement, où on réfléchit sur son activité, mais aussi qui prennent du temps. Et du coup, là aussi, quand on est dans ces mouvements-là, on apprend aussi à s'organiser, à déléguer. C'est deux mouvements que je souhaite citer parce que c'est là où j'ai beaucoup appris en développement personnel et où j'ai rencontré des personnes magnifiques, quoi.
Mais pour ça, il faut dégager du temps. Et donc,
Exactement.
c'est pour ça que la première chose qu'on fait quand on démarre le manager essentiel, c'est qu'on travaille sur l'agenda. Parce que pour moi,
Oui, bah
l'agenda, c'est le cœur du manager, en fait. S'il change son agenda, alors il change.
ah bah c'est non, faut le planifier. Enfin, je veux dire là, Le lundi matin, on se pose, j'ai mon rendez-vous, c'est le temps que j'ai avec moi-même, ça me permet de me projeter la journée, d'être aussi par rapport, alors dans la formation manager essentielle, il y a un petit outil qui est sympa, c'est le tracker, donc je l'ai fait sur quelques semaines, et c'est vrai que c'est, je me rendais bien compte que plus c'était structuré, plus j'étais satisfait, on va dire, et ça me sortait d'un... De l'infini travail, comme tu dis très souvent dans les podcasts.
En fait, on n'en parle jamais d'ailleurs, cet outil. C'est la première fois que, quand je discute avec quelqu'un de la... qui a suivi le manager essentiel, me parle du tracker, alors que je sais qu'il est beaucoup utilisé. Et effectivement, c'est un moyen aussi de se donner du sens à soi-même et de sortir, tu le dis très bien, l'expression est pas mal, de sortir de l'infini travail. C'est-à-dire, je travaille. Mais en fait, je regarde jamais trop... ce sur quoi je travaille, si je suis efficace, sur quoi j'ai progressé, etc., etc. Ouais, c'est intéressant.
Exactement. Et comment je sors de ma journée, et est-ce que je suis satisfait? Parce que, et par rapport aux objectifs que j'ai posés le matin, par rapport à son rendez-vous, par rapport à une semaine, voilà, les petits clignotants verts, orange ou parfois rouge, parce que ça arrive, des fois il y a des journées. Hier, j'ai vu qu'une journée qui était un petit peu brinque-ballée par un événement un imprévu, ça m'a pas empêché de travailler, mais ça m'a pris pas mal de temps, quoi.
Donc, tu as mis du rouge.
Oui, du coup, oui, parce que bon, c'est, voilà, c'est un petit outil sympa. Moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié énormément cet outil.
Et puis après, il faut être tout terrain. C'est-à-dire que c'est la vie d'une organisation humaine, qu'elle ce soit une entreprise, une institution, une association, que d'avoir des moments où, à un moment, tu perds la maîtrise, et puis c'est normal, et puis c'est même souhaitable. Parce que sinon, tu es trop rigide. C'est-à-dire que si ton organisation n'est jamais bousculée, si elle n'a pas d'articulation, ben, tu vas devenir rigide et en fait, tu ne sauras plus t'adapter. Donc en fait, toute la subtilité, c'est à la fois d'avoir un système solide de management, c'est-à-dire que oui, il y a des choses qui vont être perturbées, etc., mais le lendemain, ça va reprendre comme d'habitude. Donc à la fois solide, mais à la fois adaptable. C'est-à-dire que ton management, s'il te prend 10% de ton temps, les 10% indispensables du manager... tu dois toujours réussir à les placer. Et quand il y a une crise, il faut toujours garder ces 10%. C'est les 10% qu'il faut toujours garder, quoi.
L'incompressible.
C'est ça.
Et la structuration, enfin, avant, si je me suis mis à l'outil du manager, ça m'a permis aussi de m'ouvrir des voies et de tenter des challenges. Et en 2019, j'ai passé le CAFDES, donc c'est un certificat d'aptitude aux fonctions de direction d'établissements sociaux. Et donc ça, c'est l'école de haute études en santé publique à Rennes. Et je l'ai passé en VAE. Et le fait d'avoir été structuré en amont, d'avoir fait cette formation vraiment en amont, ça m'a permis d'y mettre tous les moyens nécessaires sur du temps perso, sur du temps pro, parce qu'il y avait de l'accompagnement aussi. Ça m'a permis de l'obtenir. Donc ça, c'est vraiment une satisfaction aussi. Voilà, l'organisation fait que ça m'a donné... un succès. Et sans ça, j'aurais pas réussi parce que je suis quelqu'un de plutôt intuitif, hein, plutôt dans le côté influent, côté jeune du disque. Et c'est pas mon fort, la structuration, l'organisation, en tout cas personnelle. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai autant sur le relationnel, j'ai pas de soucis sur le partenariat, sur l'innovation, la créativité. Et le côté un peu rigide, ça me manquait. Et je l'ai eu chez toi.
Bah en fait souvent on le sent hein, que tu es quelqu'un qui communique facilement, qui a de l'énergie, etc. Et malheureusement c'est un gros atout hein. De toute façon chacun des quatre profils disque a ses atouts, mais l'influence on a tous, c'est son énergie, sa capacité à entrer en contact, sa volonté de développer des choses, de toujours progresser, etc. Mais le petit défaut, ça peut être le manque de canalisation de toute cette énergie, et puis, comme tu le dis, quelque chose d'un petit peu fouillis qui part dans tous les sens, et du coup une perte d'efficacité. Et quand un profil I réussit à se structurer, mais tout l'enjeu, c'est en fait, en général, quand tu parles à un I de se structurer, il se sauve en courant. Donc, c'est important de l'aborder d'une manière qui lui parle, en disant, mais non, ça va te permettre d'aller plus loin, de concentrer ton énergie, etc. etc. Et il est sensible à ce discours, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'outils dans la formation, et certains vont correspondre plutôt à des I, d'autres à des D, d'autres à des S ou à des C. Et par exemple, tu vois, je vais te dire un exemple, tu as parlé du tracking, tu as parlé naturellement du tracking. Et immédiatement, tu m'as parlé des couleurs dans le tracking. Et ben, les couleurs, le fait d'utiliser des couleurs et que ce soit simple et d'axer ta journée, pas forcément sur l'efficacité, enfin ton jugement sur ta journée, pas forcément sur l'efficacité, mais sur le plaisir ou la satisfaction, ça parle à un i, tu vois. Donc c'est marrant. C'est que c'est pas. En fait, quelquefois en France, on dit bah, t'es soit créatif, soit organisé. Et moi, je me bats contre ça. Je dis non. On est créatif et organisé si on veut. Et d'ailleurs, plus un créatif est plus est organisé, et meilleur il sera, et plus il sera créatif. Mais c'est un peu ancré, c'est-à-dire que voilà, il faut faire tomber les barrières et voilà. Et ça, c'est difficile à faire en podcast, c'est plus facile à faire dans une formation.
Il y a des schémas psychologiques.
Tout à fait. Et alors, j'ai une question. Donc, cette formation que tu as faite, elle te donne une qualification pour pouvoir diriger un établissement.
Oui,
Et
exactement.
est-ce que dans ton cursus, tu avais du management? Est-ce que tu as retrouvé des choses qu'il y a dans Outils du Manager? En fait, tu m'as dit c'était complémentaire, mais parce que moi, on me dit souvent, bah, je comprends pas, et en particulier dans des organismes, enfin, quand il s'agit de diplômes, etc., on me dit, bah, en fait, c'est une formation pour diriger un établissement, mais on dit rien sur le management des hommes. Et est-ce que ça change ça? Ou est-ce que.
Alors, moi, c'est assez particulier parce que je l'ai fait en validation d'acquis de l'expérience.
Ah oui, d'accord.
Donc, en fait, j'ai passé un livre 1 où tu expliques pour savoir si tu es éligible, le livre 2 où tu expliques les situations de travail. Donc, et effectivement, il y avait une situation de travail sur le management. Et
D'accord.
j'ai pu y inclure justement ce que j'ai mené grâce à Outils du Manager sur le 1-1. J'ai mis aussi en place un comité de production avec les équipes. Et ça, j'ai pu le valoriser. Et puis on
D'accord.
a avec le collègue, avec Julien, on y a mis aussi des projets un peu innovants qu'on a essayé d'impulser en interne, même si parfois c'est dur. L'innovation dans une bureaucratie, parfois c'est dur, même si l'entreprise elle souhaite se changer vraiment.
Ouais.
Mais ça peut être long et ça dépend pas que d'une personne.
En fait, ce qui est
Donc du coup,
intéressant,
j'ai utilisé les outils. Hein.
d'accord. Et c'est pas mal parce que je trouve que c'est plutôt intelligent de le faire de leur part aussi, de le faire en validation d'acquis et de te demander des exemples parce que c'est vraiment ce qui compte finalement. En fait, la manière de juger si un manager est bon, avant tout, c'est de regarder son passé et de voir si dans le passé il a managé et s'il était bon. Hein, c'est quand même. Alors quelquefois on est débutant et il faut regarder autre chose, mais quand on a des réussites à son actif, je trouve que c'est plutôt intelligent de les regarder. Ouais, c'est intéressant.
Ce certificat, en tout cas, il est très dur, très exigeant, et c'est un référentiel en fait, et il faut cocher toutes les cases du référentiel, parce que c'est logiquement c'est un diplôme que tu passes sur 2 ans,
Ah
t'es
ouais.
une semaine par an là-bas, et le passer en VAE, voilà, ils sont aussi très exigeants. Et
D'accord.
puis après, bon, l'oral, ça reste, c'est plutôt une formalité, une confirmation de ton expérience, c'est pour vraiment montrer ce que tu as écrit, c'est toi qui le portes, voilà. Pour
D'accord.
pas qu'il mesure, voilà, c'est aussi la vérification est nécessaire à une validation d'acquis de l'expérience.
Ok. Ce qui m'intéresse aussi dans ton expérience, c'est que tu le mentionnes souvent, tu dis je travaille dans une bureaucratie. On sent que c'est pas un terme forcément très positif, et c'est aussi mon expérience, puisque voilà, j'ai des relations ou de la famille qui travaillent dans des milieux qui sont pas des milieux d'entreprises privées, etc. Et parfois, ce qu'on reproche à ces milieux, c'est qu'effectivement, tout est appuyé sur la bureaucratie, et surtout, comment dire surtout le management, en fait, ou ce qui est censé être du management, ne s'appuie pas sur les personnes, mais il s'appuie sur une organisation ou des textes assez rigides. L'exemple typique, peut-être je m'exprime pas très bien, c'est que je connais quelqu'un qui est arrivé pour prendre son poste, une débutante en fait, dans le secteur médical, et en fait, elle n'a même pas eu un entretien avec la personne qui était censée être son manager, dont elle connaissait à peine le nom. Et pendant toute la période où elle a travaillé, elle ne l'a jamais rencontré. Et donc, c'était totalement incompréhensible, parce que, avant tout, ben, on travaille pour quelqu'un, quoi. Et que c'est plus facile de se motiver quand on travaille pour quelqu'un, quand on a une relation avec cette personne, que de se dire, ben, je travaille pour une entité, un petit peu, théorique. Hein, je crois que c'est ça une bureaucratie. Et bon, et pour l'anecdote, quand elle est arrivée, elle n'avait même pas non plus de bureau et même, elle n'a même pas eu d'accueil. Donc c'est les aberrations qu'on peut avoir en essayant bah, de faire fonctionner une organisation humaine sans humain, en fait.
Ça dénature un petit peu, t'as raison, Moi, je parle de bureau, enfin, d'insensibilité bureaucratique parfois.
Parce que c'est ça.
On n'est pas que des dossiers, on n'est pas qu'une activité, on n'est pas qu'une prestation à domicile ou ailleurs ou dans un centre de santé. On est bien plus, c'est donner de l'humain.
On est des gens.
Des personnes qui nous gèrent plus de loin, qui nous gèrent de loin sans connaître notre travail. Parfois, ça peut être frustrant. Après, c'est la bureaucratie, il n'y a pas que le côté négatif, c'est aussi une vraie machine de guerre parce qu'une fois que la bureaucratie se met en ordre de marche, derrière, ça peut faire mal aussi.
Ouais, ouais. Et c'est ce que j'allais ajouter. En même temps, le fait qu'il y ait si peu de place réservée à l'humain dans la bureaucratie, c'est une énorme opportunité pour les individus de créer leur système de management à eux, finalement. Parce que quand on réussit à lier les deux, là, on a quelque chose de très puissant. Et en plus, toi, tu es dans un secteur quand même où l'humain est extrêmement important. Tu es quand même dans l'aide à domicile. On peut pas travailler comme des machines. C'est-à-dire, on doit avoir la machine qui nous soutient, mais on a avant tout un humain.
Et nous, on a la machine, on a quand même une structuration forte, et on est certifié AFNOR, et le service le porte depuis très longtemps. Et du coup, ça nous donne une traçabilité entre le fournisseur et le client, et c'est ça qui est important. Mais effectivement, comme tu dis, la fiche d'observation, ce qu'on appelle la fiche d'événements indésirables dans les hôpitaux, on l'a aussi, mais il n'y a pas que la fiche qui compte. Même si elle donne beaucoup de travail administratif, c'est surtout la situation derrière. Comment on retourne vers le salarié, vers l'usager ou vers sa famille pour apaiser une situation ou en sortir.
En fait, on ne peut pas faire 100% bureaucratie ou 100% ce que j'appelle le héros, c'est-à-dire la personne qui travaille tout seul, qui a ses propres méthodes, qui n'est pas dans les processus, etc. Et pour moi, le bon mix dans un poste, enfin après c'est des chiffres un peu comme ça, c'est le 20-80, c'est-à-dire que ou du 90-10, c'est-à-dire que pour moi la bureaucratie, les processus, etc. ils sont faits pour gérer quand ça se passe normalement, c'est-à-dire les 90% du travail, parce que si on devait réinventer le truc à chaque fois, on s'épuiserait. Mais la part la plus importante, ce sont les 10 ou les 20% qui restent, où là, l'humain va être important. Et donc, il faut que ça travaille ensemble. Et un humain, il peut être amené, effectivement, à ne pas faire exactement ce qui est écrit dans le processus, parce qu'il est confronté à une situation qui n'est pas décrite par le processus. En tout cas, voilà, moi je le vois comme ça dans le secteur privé, c'est que si on devait tout inventer tous les jours, on serait épuisé et on peut pas être un héros tous les jours. Par contre, si on n'a jamais notre rôle de héros, si on n'a jamais notre moment où on met notre patte, où on met notre aspect humain, etc., on n'a aucun sens dans notre travail et du coup on est mauvais. C'est vraiment une question d'équilibre, je pense.
Mais tu vois, ça me fait penser, et du coup je peux rebondir parce que dans la formation, du coup la management par objectif,
ouais.
Ça permet aussi, avec les cellules, les leaders dans les cellules, ça permet aussi de, pas de déconstruire la bureaucratie, mais en tout cas d'envisager d'autres modes de collaboration qui sont plus humains ou plus corrects par rapport à des niveaux aux relations exponentielles, où effectivement il y a un référent pour 5 à 8 personnes et c'est quand même beaucoup plus gérable. Après, il faut le faire accepter par l'administration, mais ça c'est autre chose. Mais ça donne du coup d'autres perspectives. D'organisation.
Toi, tu as mis un petit peu ça en place, c'est-à-dire que tu as créé... En fait, juste pour expliquer, une cellule, c'est quoi ? Alors, ça peut être une hiérarchie, la cellule, mais ça peut être aussi un travail en mode détaché de la hiérarchie, tout dépend de votre environnement. Mais qu'est-ce que ça dit en gros ? Ça veut dire que à chaque fois qu'on dépasse 8 personnes dans un ensemble humain, il est mieux de scinder l'ensemble humain en plusieurs parties de moins de 8 personnes. Et ensuite, chacune de ces équipes de 8 personnes a un seul leader, qui peut être un manager ou un leader, ça dépend. Et c'est ce qui permet, je dirais, de s'adapter au terrain, d'être réactif, que ça reste humain, qu'on se connaisse. Bref, ça permet de mieux faire fonctionner l'humain. Et toi, tu as fait un petit peu ça ?
Alors, on tente d'y tendre. Ouais. Après, c'est plutôt Julien qui a réfléchi pour son service, parce que lui, il a 30 agents.
Ouais.
Et du coup, c'est quand même assez conséquent, il a une adjointe, il a des référents par bureau, il a aussi des référents sur des thématiques.
D'accord.
Et du coup, il a essayé de mettre en place une organisation plus à taille humaine et surtout, lui, après, dans son service, du coup, il a structuré aussi les réunions d'équipe, les 1-1, parce qu'il y a beaucoup de travail, les collègues, là, lui, il gère les collègues qui planifient les interventions, elles s'occupent de 40 à 60 aides à domicile et plus de 200 usagers.
Ah, c'est
donc c'est quand même, la quantité, elle est énorme. Même si le logiciel métier permet de planifier des prestations, d'automatiser un petit peu, Il n'en reste pas moins que les imprévus ou les événements sont assez conséquents.
Là, tu me parles justement des 10% ou 20% dont je parlais tout à l'heure qui seront jamais, jamais, jamais gérés par un logiciel métier parce que justement, c'est cette souplesse qui est nécessaire pour bien faire son métier. Je veux dire, quand on est dans le processus, tout va bien, on n'a pas besoin d'être bon. Quand tout d'un coup, on n'est plus dans le processus, c'est là qu'on a besoin d'être bon. Et donc,
Exactement.
ton collègue Julien, en fait, donc, si je comprends bien, ils sont à deux pour gérer 30 personnes.
Oui.
Ouais, d'accord. Bah, ça, c'est le cas typique où, effectivement, l'organisation en cellule, elle peut venir au secours de la hiérarchie, en fait.
Exactement. Donc ça, voilà, moi je suis à l'étape 2, module 2 sur management par objectif. Et justement, c'est quand tu complètes la fiche, tu te rends compte qu'il y a peut-être des choses à faire ou d'autres organisations à entrevoir. Voilà. Après, nous, chez nous, c'est voilà, il y a les fiches de poste, tout est bordé, tout ça, mais c'est comment on crée un système plus souple
Ouais.
et adapté aussi aux collègues qui ont besoin d'être managés et qui ont besoin de faire des remontées aussi.
Ouais,
C'est important.
c'est ce que je dis souvent, la bonne manière de voir si le management est en place, c'est de partir entre guillemets du terrain, c'est-à-dire du plutôt du. En fait, ce qu'il faut faire, c'est bah, si tu gères 50 personnes, c'est est-ce que chacune de ces 50 personnes a un A1 déjà? Et après, tu te poses la question avec qui? Je trouve que c'est plus efficace de travailler en bottom-up, c'est-à-dire en partant des besoins des salariés, plutôt que de dire bah, j'ai un manager, donc avec qui va faire des 1-1. Quelquefois, il vaut mieux inverser la réflexion et ça permet de se rendre compte qu'on a des carences dans notre chaîne de management, en fait.
Et c'est pour ça qu'on a. Il a structuré effectivement son service. L'accueil général, ils sont 6, du coup, il a délégué son adjointe, ainsi que les gestionnaires qui font les collègues qui font des remplacements de tout le monde. On
Génial.
appelle ça des volants, des polyvalents. Et du coup, au moins, cette partie-là, c'est plus lui qui la gère en direct, les 1-1 et les réunions d'équipe. Voilà. Ils sont délégués, ça lui libère aussi le temps, et derrière, il y a quand même encore 20 agents à gérer.
Bon, mais quand même, c'est pas mal. C'est,
Il y
je
a
veux
encore
dire,
quoi faire.
il a quand même délégué une bonne partie, en particulier, il a délégué du management, ce qui n'est pas toujours évident. Mais par
Non,
contre, qui
non,
est
non.
extrêmement valorisant pour les personnes à qui tu le délègues. Donc, ah,
Oui.
bravo, hein, franchement. Ok. Est-ce qu'il y a aussi des, je dirais, des accomplissements, on va dire, appeler ça comme ça, ou des bénéfices que tu as eus grâce aux formations dont tu pourrais nous
Oh
parler?
oui. Des gros bénéfices. Nous, le secteur d'activité, on en a parlé en introduction, c'est l'aide et le maintien à domicile.
Ouais.
C'est un secteur qui, franchement, fait pas envie, hein. Je veux dire, tu travailles un week-end sur deux, tu travailles le matin, plutôt tard le soir. Enfin, l'amplitude, c'est de 12 heures, donc tu peux commencer à 7 heures, finir à 7 heures du soir. Tu travailles à temps partiel, tu as des creux dans ta journée. Vraiment, pour donner envie de travailler dans ce secteur, faut y aller, quoi.
Ouais.
C'est pas un secteur de bureau du lundi au vendredi. Enfin, il y a d'autres secteurs d'activité qui sont pas simples, hein. Café, hôtel, restaurant et autres. Donc, le recrutement chez nous, des aides à domicile qualifiées, mobiles en plus, faut qu'elles soient mobiles, faut qu'elles aient un moyen de locomotion, qui la vocation, ça c'est la cerise sur le gâteau. Bah, c'est compliqué. On est aussi à une période de l'entreprise, il y en a une période de sa vie où la moyenne d'âge se rapproche plus les 46-50 ans.
Ouais.
Donc, dans les 10 ans à venir, on a 1000 salariés, dans les 10 ans à venir, on va en perdre un tiers. Donc, du coup, le recrutement
Ah oui.
est essentiel. Et j'ai identifié au sein de l'entreprise une personne qui avait une appétence sur le partenariat. On avait quelques similitudes, en tout cas, même si on est de sexe opposé, on avait quelques similitudes sur les modes de fonctionnement. Et avec Amandine, on est allé chercher les partenaires de l'emploi, savoir ce qu'on pouvait faire avec eux. Grâce au podcast, et je le dis parce que c'est des fois on essaye de gérer tout ça, il faut du résultat par rapport au management. Et certes, avec certains partenaires, on n'en avait pas de résultat. C'est-à-dire qu'il y avait une gestion politique des choses, il y a des structures services publics de l'emploi, parfois il y a une gestion politique, hein, l'État, les collectivités, enfin, ils font tout leur. Ils ont un relationnel assez particulier, parfois ça se passe très bien, parfois moins. Très souvent, ça se passe bien quand même, faut le dire. Mais on nous a fait des propositions qui nous amenaient rien en termes de recrutement.
Ouais.
Et donc, on a saisi une opportunité auprès de Pôle Emploi. Très souvent, on décrit Pôle Emploi parce que c'est une bureaucratie, parce que c'est
Ah non,
bah
non,
justement,
moi, ça
c'est.
dépend, ça dépend. Alors là,
Ouais.
excuse-moi, je te coupe, mais
Vas-y, vas-y,
moi
vas-y.
j'ai des expériences diverses et variées avec Pôle emploi, et en fait, c'est très simple. La qualité du service dépend de la qualité des interlocuteurs. C'est, il y a des gens qui prennent très très à cœur leur, et pas tous, mais voilà, comme dans tout, dans toute structure humaine. Mais quand tu as la chance de tomber sur un interlocuteur et que tu arrives à bien le guider, etc., ça peut être vraiment très très efficace.
Ah ben, tu vois, nous, on a rencontré les bons interlocuteurs et les bons collaborateurs chez eux. On a appris à se connaître, on a appris à connaître les différences entre conseiller emploi, conseiller entreprise, mm-hmm. eux aussi ils fonctionnent en service. Nous aussi, on sait ce que c'est qu'un fonctionnement bureaucratique. Je pense qu'on est aussi des spécialistes comme eux. Et on a su créer une synergie entre nos deux structures et on a pu recruter l'an passé 34 personnes.
D'accord, ah oui. Ah oui.
Donc sur l'ensemble du territoire, c'est quand même assez important. Alors ça, c'est une action spécifique de recrutement. Tous les mois, je recrute environ une dizaine. D'accord. J'ai des dossiers de recrutement, moi je gère les dossiers, je fais des propositions de recrutement, j'en gère une dizaine, plus les 34 dans une période Covid.
Ah oui, d'accord.
Ça a été monstrueux. Enfin, alors ça fait du dégât, je pense qu'on aurait pu être plus performant. Sur les 53 stagiaires, on en a eu 34. On aurait pu être plus performant s'il n'y avait pas eu le Covid. Et cette année, on fait un bis repetita avec 68 stagiaires.
Ah ouais, dis donc.
À former, donc en externe. Et là, Pôle emploi nous accompagne énormément. Enfin, je veux dire, ils vont aller chercher du sourcing, du public nouveau. Ils font des méthodes de simulation de recrutement par simulation, c'est MRS, l'acronyme. Derrière nos équipes, nos chargés de secteur vont aussi faire des entretiens, présélectionnent et ensuite on les rentre dans un sas de formation. C'est un titre professionnel assistant de vie aux familles. Et là, l'organisme de formation avec qui on travaille, là, c'est un petit organisme de formation sur Carvin, Adéco Formation. Mais voilà, ils font du sur-mesure pour nous, ils ont compris nos besoins et on fonctionne avec eux et ça marche du tonnerre, parce que là, je te dis, 34 l'an passé, si on en fait, 68 encore en cours de formation, il y aura sans doute quelques déperditions, on le sait.
Ouais,
quand tu as un taux de réussite de 60 à 70%, t'es content, quoi.
Ah ouais, non, mais c'est un très très bon taux. Hein. Ouais. Bah bravo, c'est
donc
là, chouette.
Donc ça, c'est du résultat, voilà, du concret, du sonnant et trébuchant. Parce que voilà, c'est vraiment, vraiment important, quoi.
Super. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler à propos de soit de formation, des choses que tu as mis en place ou ce que ça a fait évoluer dans ta manière de gérer peut-être à plus long terme. On sent plus de sérénité, hein, c'est ce que tu dis.
Oui. Il y a encore du travail à faire. Moi, ce que j'identifie, j'ai pas pris la formation tableau de bord dynamique, mais je pense que ça devrait pas tarder. Mais j'ai voulu prendre management par objectif d'abord, parce que dans une bureaucratie ou dans toute entreprise, parfois on a la tête dans le guidon et on fait sans savoir nos missions essentielles. Donc c'est vrai que les fiches missions, ce que tu proposes comme outil, ça permet de poser des bases. Mais là, on va avoir de gros enjeux. Donc l'enjeu de recrutement, une fois qu'il est mieux assimilé, mieux compris collectivement, il y aura une notion d'activité aussi, de développement d'activité. Qui sera à entrevoir. Et moi, j'essaie d'identifier par management par objectif. Ce que je veux poser, en fait, c'est les objectifs pour les collègues, pour chaque service. Parce que dans un fonctionnement, on peut se laisser avoir par les imprévus, par le quotidien, sans lever la tête.
Tout à fait.
Et ça, je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant. Il y a encore beaucoup de travail.
Oui, alors en fait, clairement, le manager essentiel, ça te permet de poser ton système de management et c'est la base. Parce que tu as tous tes rituels, etc., qui sont posés. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu développes la confiance avec tes collaborateurs. Tu peux leur parler de performance à travers le feedback. Tu peux déléguer, etc. Ça, c'est ce qu'il faut voir. Ça, faut voir ça comme la cathédrale, c'est-à-dire ou la maison, c'est le truc que tu as construit. Le management par objectif, ça va donner une direction à tout ça. Parce que tu peux, c'est super d'avoir quelque chose de solide et un système qui marche, mais il doit être au service de quelque chose. Qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut et vers quoi on va. Sinon, tu auras. Bon, je te disais, tu peux donner du sens à travers l'autonomie que tu donnes aux gens, mais l'autonomie, elle est forcément à l'intérieur d'un projet. Sinon, les gens, ils vont faire de l'autonomie, mais un peu dans tous les sens, etc. Et c'est le rôle de management par objectif. Dans management par objectif, tu as commencé, tu as vu, tu pars de la vision, etc. Donc, tu pars de ce que ton organisation attend de toi. Toi, tu es dans une bureaucratie, donc tu sais à peu près. D'ailleurs, ce n'est pas toujours très clair dans les bureaucraties, et ce n'est pas toujours clairement exprimé, mais c'est à toi, de manager, de traduire ça en objectif. Et puis, une fois qu'on fait ça, les objectifs, tu les déclines. Déjà, tu regardes si tu as les bonnes cellules pour les décliner, c'est ce que tu viens de dire. Et ensuite, tu descends au niveau de la cellule, ou du département ou du service, et ensuite tu descends encore au niveau de la personne, et à la fin, chaque personne, par cascade, a ses objectifs personnels et collectifs. Et ensuite, la partie suivante de la formation, ça va être comment j'anime tout ça. C'est-à-dire, combien de fois par an je dois revoir mes objectifs, parce que le risque, si on n'a pas un rythme qu'on s'est imposé, c'est qu'à chaque fois qu'on a un obstacle, plutôt que de je dirais, franchir l'obstacle, bah on va changer l'objectif. C'est quand même plus
ouais,
sympa.
On s'arrête, on change, ouais, on fait la girouette.
Et... Bah, c'est ça, et c'est le problème. Ah, ouais. C'est-à-dire que c'est un peu comme si j'avais un bateau, je pars de Calais, et je veux aller en Angleterre. Et puis, donc j'ai mon cap, c'est l'Angleterre. Et puis tout d'un coup, il y a un ferry qui me bloque, et bah, plutôt que de contourner le ferry, je vais dire, bah non, finalement, je vais aller à Boulogne. Sauf qu'en fait, c'était pas là que je résume, mais c'est pour expliquer.
Oui,
et je
oui.
résume de manière simple. Mais c'est pourtant ce qui se passe très, très souvent dans les entreprises, c'est qu'on ne sait pas à quel moment il faut persister et à quel moment il faut changer d'objectif. Et donc, la méthode, elle te dit exactement ça. Elle te dit, tes objectifs, tu peux les changer tous les autant, mais ça veut dire qu'entre deux, tu peux pas les changer. Tu peux juste changer tes méthodes. Et ça s'articule sur trois niveaux. Un niveau stratégique, c'est là où on change les objectifs. Un niveau tactique, c'est là où on change les méthodes. Et un niveau hebdomadaire, où c'est là où éventuellement on change les moyens, mais surtout on se coordonne. Et donc en fait, le management par objectif, ça va donner du jus à tes réunions d'équipe. Tes réunions d'équipe, elles vont se calquer sur ton management par objectif. Donc en fait, c'est très complémentaire au manager essentiel. Mais il faut d'abord mettre en place les bases.
Oui, ah ouais, complètement. C'est vrai que c'est au moins on sait la direction, on développe les outils, les objectifs, ils sont connus de tous, et au moins les gens se l'approprient. Quoi.
C'est hyper important.
Les collaborateurs.
Ouais. Et il faut aussi qu'ils soient visibles. C'est-à-dire que je sais pas si tu as fait ce module-là, à un moment, j'explique comment soit c'est un document partagé. Moi, j'aime bien les trucs qu'on les voit physiquement dans une salle de réunion.
Eh oh, tu spoiles la formation que j'ai achetée là.
Bon, j'arrête.
Et non, après... je présente.
Non, mais en plus, c'est ce qu'on me dit. On me dit, mais des fois, tu dis trop de choses et du coup, on ne sait plus ce qu'il y a dans la formation. Mais il y a plein d'autres choses. Rassurez-vous. Tu vois, le tracking, on n'en avait jamais parlé. Tu en as parlé. C'est vrai que moi, presque, j'y pensais plus à cet outil-là. Et donc, si je continue, tu m'as parlé aussi de tableau de bord dynamique. En fait, tableau de bord dynamique, évidemment, c'est rattaché aux objectifs, mais ça te fait prendre en main les indicateurs. C'est-à-dire que quelquefois, ton organisation ou ton expert comptable ou X ou Y fournit des indicateurs. Mais en fait, c'est vraiment au manager de prendre en main ces indicateurs. Et c'est très, très important. Et là-dedans, on va voir d'abord comment les sélectionner, parce que si tu en as trop, personne ne comprend rien, hein, donc il faut qu'il y en ait peu. Comment les changer et quand les changer? Comment les faire évoluer? Le type d'indicateur, c'est-à-dire entre les indicateurs de progrès et les indicateurs critiques. Par exemple, je vais prendre un exemple d'entreprise. Un indicateur de progrès, ça peut être le chiffre d'affaires. On a décidé de développer le chiffre d'affaires dans tel secteur. Mais l'indicateur critique, c'est le niveau de stock. C'est-à-dire que si on dépasse un niveau de stock, on met l'entreprise en danger parce qu'elle n'aura plus de trésorerie. Et donc, comme dans une voiture, il faut aussi qu'on ait un voyant qui s'allume quand on fait ça. Ça, c'est une des choses. Et la deuxième chose très, très importante à comprendre, c'est que les indicateurs, ce sont des éléments de management. C'est-à-dire que l'idéal, c'est que ce soit les opérateurs eux-mêmes, c'est-à-dire les opérationnels, qui remplissent leurs indicateurs. Mais il faut faire attention, parce que si tu leur mets en place un reporting, c'est très démotivant. Donc, il faut que ce soit motivant à faire. Et surtout, il faut que ça leur donne un feedback immédiat. Et donc, à travers ça, tu vas faire ce qu'on appelle du nudge. C'est-à-dire que sans dire aux gens, bah, les gars, là, il faut changer quelque chose, ça va se faire naturellement à travers la manière dont ils vont voir les indicateurs. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple bête, un commercial, tu lui mets une jauge, tu n'as pas besoin de tous les jours lui dire faut que tu bosses. Il le voit. Et donc, naturellement, parce que c'est dans son tempérament, il va toujours essayer de faire monter la jauge. C'est l'exemple, je simplifie à mort, mais c'est pour qu'on comprenne l'enjeu des indicateurs. Et en plus, il faut que les indicateurs ils soient très souvent produits, si possible de manière quotidienne, pour que ça fasse partie du vécu de l'opérationnel. Voilà.
Ça résonne pleinement avec ton mail de ce matin.
Oui, exact. Là, on enregistre. On est le 18 février. Et effectivement, en ce moment, c'est de ça que je parle dans les dans les mails privés. Donc, ouais, exact. Donc,
Donc.
c'est pour ça le sujet est tout frais.
Exactement. Dans ce que je voulais dire aussi, ou ce que je voulais aborder, c'est au-delà de l'enrichissement, enfin, des éléments gratuits, des formations payantes, il y a aussi une dynamique que tu amènes, une dynamique de réseau, une dynamique de curiosité, parce que moi, voilà, depuis que je suis outil du manager, j'ai parfois aussi dévié du chemin. Je suis allé voir le Charles Pépin, je suis allé voir Pierre Morquins. Les bouquins que tu proposes, enfin, les références que tu proposes via les invités sont intéressants, que ce soit Gets Done Things, Olivier Siboni, Couper la poire en deux, enfin tout ça, je me suis enrichi de tout ça. Le Nudge, tu en as parlé juste à l'instant, ce bouquin, il est génial. Tu as même envie de le relire. Je viens de le finir, ça te donne envie de le relire, le petit coup de coude comme ça qu'on donne pour influer sur les bonnes décisions dans les collectivités, dans la société, dans l'entreprise. Voilà, ça donne une dynamique.
Toi, t'es vraiment AI, hein, je te le dis. D'ailleurs, je sais pas si je voudrais le dire, mais dans les cartons, on a un projet avec un partenaire avec qui j'ai déjà travaillé pour sortir une formation spécifique sur le nudge.
D'accord,
C'est juste que pour l'instant, on trouve pas le temps, mais ça, c'est un
ah
truc absolument passionnant. Et en attendant, vous pouvez lire le livre, c'est un livre remarquable.
oui. Exactement, moi
Ouais.
ça m'a beaucoup plu, ça m'a donné l'idée d'un projet, alors plutôt extra-professionnel pour le boulot, mais qui concerne pas mon activité, mais ça, là, ça m'a donné un projet pour motiver les collègues à arrêter de fumer.
Ah, d'accord.
Donc voilà, j'ai quelques idées pour les initier. Après, bon, on verra si dans les règles, on peut faire comme c'est indiqué dans le bouquin. En tout cas, se servir du bouquin et te donner envie aux gens. Au lieu de mettre des affiches, tu sais, le mois sans tabac, c'est des grosses affiches jaunes que tu vois sur
Ouais.
nos pharmacies, dans les centres de santé. Ouais, bah, c'est bien, quoi. Mais sinon, combien de personnes ont arrêté de fumer?
C'est
C'est un peu
ça.
la question que j'ai envie de poser, quoi. C'est comment on incite encore un peu plus. Et dans le bouquin, il y a quelques petites recettes vraiment très sympathiques et pas extraordinaires, quoi, pour aller jusqu'au bout.
Tout à fait. Ok. Bah écoute, c'est très 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 intéressant. Effectivement, puis moi je vais te dire, hein, recevoir des gens de la qualité de Charles Pépin ou Olivier Siboni sur le podcast, pour moi aussi c'est un enrichissement énorme et c'est absolument passionnant. C'est intéressant ce que tu dis, tu parles de réseau. Il y a un endroit que je vais essayer de développer un petit peu plus. Alors encore une fois, faut que j'ai un peu de ménage à faire dans mon emploi du temps et dans mon agenda, mais c'est la partie entre guillemets communauté et comment et forum en fait. Je pense
D'accord.
que il y a vraiment quelque chose à faire et mon idée, voilà, c'est qu'on puisse échanger entre nous. Tu vois, toi, tu échanges au sein de ton entreprise et il y a du bouche à oreille et vous avez un référentiel commun, mais ça peut aussi se faire. À un niveau national, voire international. Et c'est un peu mon objectif quand j'ai créé le forum. C'est-à-dire que il y a trois parties, hein, au forum. Une première partie qui est le forum public. Ça va me servir plutôt à diffuser le message de manière large. Ensuite, il y a les forums privés qui sont réservés aux personnes qui ont pris une formation au moins. Et ils peuvent échanger au sein de la formation qu'ils ont prise. Et après, le niveau que j'aimerais bien développer, c'est ce que j'ai appelé le cercle. C'est vraiment les personnes qui ont pris beaucoup de formations,
D'accord.
voire qui ont pris toutes les formations, pour qu'elles puissent échanger à un autre niveau. Et ça me semble. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la communauté, elle peut se faire à différents niveaux. Mais il faut qu'on ait un socle commun. Il faut, parce qu'un forum trop généraliste, en fait, ça part un peu trop dans
On
tous
s'y
les
retrouve
sens.
pas.
Voilà,
Ouais,
c'est
oui.
ça. Et
Je
donc.
t'avouerai que c'est mon point faible. Mon point faible, c'est ça reste le forum. C'est voilà, je pense qu'il faut que je m'y mette ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, je sens que je reçois les mails de relance. Ça fait du bien d'ailleurs de dire, tiens, depuis que t'es pas venu au forum, il y a eu ça, il y a eu ci. Parce
Voilà.
que c'est vrai que c'est un nouvel outil et faut se l'approprier, quoi. Mais c'est une question de temps.
Tout à fait, et puis moi et de mon côté aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut que je structure un peu plus l'animation du forum. D'ailleurs, si dans les gens qui nous écoutent, des gens sont actifs sur le forum ou aimeraient être actifs sur le forum, n'hésitez pas à me contacter parce que de ce côté-là, j'ai un petit peu besoin d'aide. J'essaye de suivre. Et il y a des gens très actifs déjà. Hein. J'avais reçu
Oui.
Barbu Bavard. Mais alors lui, c'est par période. Tout
Ouais.
d'un coup, il arrive sur le forum, il parle beaucoup et après, il disparaît. D'ailleurs, il va revenir sur le podcast.
Sur le podcast.
Ouais, il va revenir. Bah peut-être le. Faut que je regarde la programmation, mais peut-être le prochain, juste après celui qu'on est en train de faire.
D'accord.
Mais voilà, c'est rigolo d'avoir des membres aussi qui reviennent régulièrement, je trouve ça bien.
Ça marche.
Ok, alors donc, c'est quoi la suite pour toi? Quels sont les projets? Faire la formation management par objectif.
Terminer management par objectif, délivrer aux collègues les objectifs de chacun, et je t'avouerai que je m'en servirai aussi pour d'autres casquettes.
D'accord.
Management par objectif, ça aide à structurer. Mmh. Et je crois que les tableaux de bord dynamiques aussi, pour faire des remontées, parce que dans les grandes structures, on a beaucoup de chiffres qui nous descendent. Voilà, le nombre d'équivalents temps plein, le nombre d'heures qu'on réalise, le nombre de trucs. Enfin, au bout d'un moment, une fois qu'on a vu 15 000 chiffres, qu'est-ce qu'on retient? Et c'est vraiment ça que je cherche dans management par objectif et tableau de bord dynamique. Les indicateurs essentiels.
Tout à fait. Et en fait, ton job de manager, quand tu as déjà des indicateurs qui sont produits, c'est de transformer des indicateurs, entre guillemets, des indicateurs flicage, hein, moi j'appelle ça comme ça, des indicateurs de contrôle, les transformer en indicateurs pour augmenter la performance. C'est-à-dire que le système d'information, il doit passer du statut de système de contrôle à système de motivation, en fait. C'est vraiment
de motivation. Ouais,
voilà, en tant que manager, c'est ton job, c'est de transformer les infos que tu as ou d'en créer d'autres. Pour que, alors excuse-moi, c'est mon train qui sonne, je suis désolé, va falloir que j'y aille, mais voilà. Et donc ce que je te propose de toute façon, Fabien, si tu avances et puis que ça se passe bien sur les formations suivantes, ou si ça se passe mal d'ailleurs, si tu as envie de revenir, ce sera avec plaisir.
Eh ben, merci à toi Cédric.
Je te remercie beaucoup, et puis pour ton témoignage, et je suis très content d'avoir eu le témoignage d'une personne qui n'est pas dans une entreprise privée au sens strict du terme, parce que c'est un de mes axes importants sur lequel je communique peut-être pas assez, c'est de dire que le management, c'est pas réservé à l'entreprise privée. Le management, ça fonctionne dans toutes les organisations humaines, dans toutes les associations, etc. Du moment qu'on a de l'humain à gérer, y a du management à faire, et les techniques sont les mêmes.
Et si tu veux quelques contacts dans le milieu de l'économie sociale et solidaire, y a pas de souci.
Avec plaisir. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je te souhaite plein de réussite pour l'avenir. Et puis peut-être à une prochaine fois dans le podcast.
À toi aussi.
Merci
à très bientôt, Cédric.
Ouais, salut.
Salut.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné toi aussi envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outilsdumanager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit, ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager, www.outilsdumanager.com. À bientôt, au revoir. Alors, tu vois, je viens de faire un petit calcul. On a à peu près 3 millions de téléchargements du podcast et on a à peu près 890 avis sur le podcast. En fait, ça fait que 0,03% de personnes qui, après avoir écouté un épisode, ont laissé un avis. Je trouve que c'est pas un super pourcentage. Et je pense que vous pouvez être plus nombreux, quand un épisode vous plaît, à mettre un avis positif. Donc, surtout, n'hésitez pas, ça nous rend un énorme service et ça nous fait super plaisir. Merci.